La vérité sur l'immobilier à l'étranger. Alors dans ce podcast, on va détailler ma vision sur l'investissement et même de manière générale l'achat-revente et l'achat d'immobilier à l'étranger via mon expérience après avoir acquis 35 lots immobiliers principalement en France mais aussi à l'étranger avec une villa à Bali. Je vais te donner mon avis, je vais te dire aussi pourquoi je n'ai pas plus de biens à l'étranger. Tu verras, tu comprendras au fur et à mesure du podcast avec les différents éléments que je vais te donner pourquoi je n'ai pas plus insisté pour le moment sur l'étranger. Et je vais également te donner le retour d'expérience de plus de 40 pays visités et pour la plupart des pays que j'ai analysés dans un objectif d'investissement ou alors de projet immobilier. Récemment, je reviens là depuis quelques jours d'un voyage de un mois et demi à travers, je dirais que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 destinations différentes que j'ai analysées, que j'ai filmées, qui seront regroupées dans une vidéo YouTube très prochaine sur l'immobilier en Europe. À cela, je vais ajouter également 4 ou 5 destinations que j'ai faites depuis le début de l'été. Donc, comme tu peux le voir, j'ai passé au moins 2 mois cet été à voyager un peu à travers l'Europe. Donc, on parlera dans cette vidéo, on parlera de la Sicile, on parlera de Florence, on parlera du sud de l'Italie, la partie des Pouilles, on parlera de Prague, on parlera de Barcelone, on parlera de Rome, on parlera d'Albanie, du Monténégro, du Kosovo, bref, de pas mal de destinations que j'ai explorées ces derniers mois dans un but de te faire une vidéo complète à ce sujet pour te donner mon avis sur l'immobilier à l'étranger et te donner du coup une analyse complète là-dessus. Et dans ce podcast, on va parler du coup de mon avis sur la vérité de l'investissement et de l'immobilier à l'étranger. Globalement, ce qu'on voit en général, c'est que beaucoup de personnes utilisent l'immobilier à l'étranger pour expliquer à quel point c'est intéressant, un nouveau pays se développe, il y a du potentiel, les prix vont exploser, etc. etc. C'est toujours plus ou moins le même schéma, on part d'un pays qui soit était fermé, soit était peu connu et en train de s'ouvrir un petit peu au tourisme et en train de s'ouvrir aux étrangers, et c'est souvent le nouvel Eldorado pour des investisseurs ou des personnes qui souhaitent placer de l'argent pour faire des belles plus-values ou des belles rentabilités sur de la location. Ça, c'est un petit peu le storytelling classique d'un investissement, d'un projet immobilier à l'étranger. La première question que je veux te poser, parce que c'est une question que tu dois te poser toi si l'immobilier à l'étranger t'a déjà intéressé, c'est pourquoi ? Pourquoi aller faire de l'immobilier à l'étranger ? Et c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de raisons qui pourraient te pousser à le faire. De mon côté, ça pourrait être par exemple le fait de vouloir acheter un bien immobilier pour y passer une partie de l'année, ça pourrait être le fait d'avoir découvert un pays avec un potentiel extrême lors d'un de mes voyages et de me dire que ça vaut le coup d'y investir, ou alors ça pourrait être d'autres raisons. Pour toi, ça peut être par exemple, je sais pas, parce que tu as de la famille à l'étranger et tu souhaiterais acheter un pied-à-terre là-bas, ça pourrait être parce que justement tu as de la famille et la famille te fait comprendre qu'il y a du potentiel immobilier dans ce pays-là et donc tu souhaiterais potentiellement y investir, etc., etc. Il y a plein de raisons qui peuvent te pousser à ça. Mais globalement, pour la plupart des Français, il n'y a pas de raison particulière d'aller acheter un bien à l'étranger plutôt que de l'acheter en France. Pour la plupart, on n'a pas de famille, particulièrement dans des pays où l'immobilier peut être intéressant. On n'a pas vraiment, pour la plupart des Français en tout cas, énormément on fait pas énormément de voyages, donc on n'a pas une vision globale des opportunités de plein de pays. Bref, pour la plupart des Français, il n'y a pas des raisons extrêmement concrète d'aller acheter de l'immobilier à l'étranger plutôt qu'en France. Donc c'est vraiment la question que je t'invite à te poser avant tout, c'est pourquoi est-ce que toi tu t'intéresses aujourd'hui à potentiellement acheter à l'étranger ? Et dans la plupart des cas, la vraie raison c'est pour gagner plus. Parce qu'on se dit qu'en France, le potentiel n'est pas suffisant ou alors que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on va voir dans ce podcast que ce n'est pas toujours le cas. De mon côté, sur des dizaines d'analyses de pays, parce que j'en ai fait beaucoup, il y a une seule destination qui a retenu mon attention au point d'y mettre mon argent. Parce que comme d'habitude, là où on reconnaît les personnes qui croient vraiment en ce qu'elles disent, c'est si elles mettent vraiment leur argent. De mon côté, j'ai acheté une villa à Bali. Alors, c'était il y a bientôt 3 ans que j'ai commencé le projet. C'était très intéressant à l'époque. À mon sens, ça allait un petit peu moins aujourd'hui. Après, je ne lis pas dans l'avenir. En tout cas, à l'époque, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai mis mon argent. Donc, on reconnaît vraiment l'engagement de quelqu'un quand il met vraiment son argent. Si je vous disais demain, ah ouais, il faut investir, je sais pas, en Afrique du Sud, mais que moi-même, je ne le faisais pas, je serais très mal placé pour le faire. Et à mon sens, vous ne devriez pas m'écouter à ce sujet-là si je ne mets pas mon argent dans ce pays-là ou dans cette destination-là. Ça, c'est un point qui est quand même super important. Donc, globalement, pourquoi la plupart des gens le font ? C'est pour gagner plus. Moi, j'ai vu un pays, une destination qui m'a permis de me dire « Ok, dans cette destination-là, je vois le potentiel de croissance, je vois pourquoi je mettrais X euros dans ce pays-là et pas dans mon pays d'origine qui est la France. » Et j'ai du coup, énuméré différentes choses que je vais vous évoquer dans ce podcast qui sont à mon sens essentielles à analyser quand on s'intéresse à un pays pour acheter un projet, que ce soit pour de l'achat-revente ou pour du locatif, pour la courte durée, la longue durée, peu importe. Donc voici les différents éléments. Une fois qu'on s'est posé la question du pourquoi et qu'on a une raison qui est valable, on va passer du coup à la comparaison du potentiel. La France, c'est un marché mature. La France, c'est un marché d'Europe de l'Ouest, un petit peu comme les États-Unis, un petit peu comme le Canada, un petit peu comme l'Allemagne, etc. C'est des pays développés, des pays qui ont une croissance qui est plutôt légère, qui est plutôt faible par rapport à des pays émergents qui ont encore beaucoup de choses à construire. On est un pays qui est un petit peu arrivé à son niveau de stabilité, à son niveau de maturité. Forcément, on n'est pas sur un pays qui va connaître des croissances de prix immobiliers qui vont être exponentielles. Si on prend l'exemple de pays en voie de développement, il n'est pas rare de voir par exemple des x2, des x3 sur les prix de l'immobilier en l'espace de 2, 3, 4 ans. Et ça, c'est quasiment impossible en France sur un pays qui est extrêmement stable. Enfin, c'est pas quasiment, c'est même totalement impossible sur un pays qui est stable et qui est sur une pente, on va dire, de maturité et donc de stabilisation de ces prix avec une augmentation qui est, on va dire, relativement lisse. Les prix continuent d'augmenter, bien sûr, mais augmentent tout doucement. Ça, c'est un point qui est super important. Ça peut être vu comme un point négatif parce qu'on peut se dire, ok, bah du coup, la croissance, elle va être limitée, mais c'est surtout, à mon sens, un point positif parce que ça implique une stabilité et, on va dire, une sécurité qui est importante par rapport à d'autres pays. Parce que qui dit pays qui peut croître fortement, dit pays qui peut également décroître très fortement. Un pays qui peut faire x2, x3 en 2-3 ans, c'est un pays qui peut également faire diviser par 2, diviser par 3 en quelques années également. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'important, c'est de comparer le potentiel des pays. Donc, à mon sens, si je vais mettre de l'argent dans de l'immobilier à l'étranger, déjà, ça implique que j'ai une stabilité financière dans mon pays d'origine, parce que, à mon sens, c'est une diversification et non, on va dire, un moyen de gagner rapidement de l'argent. Pour moi, l'immobilier en France, si on veut générer des sommes importantes rapidement et de manière sécurisée, ça reste de loin la meilleure méthode. Si bien sûr tu es français et tu vis en France, si tu es belge ou suisse, c'est la même chose, hein. Ton pays d'origine, ça reste le meilleur endroit pour le faire parce que tu vas avoir les conditions, des conditions qui sont, on va dire, évoluées, on verra par la suite. Tu vas avoir un marché que tu maîtrises et tu vas avoir une langue que tu connais, une culture que tu connais et une sécurité qui va être bien plus accrue que dans la plupart des pays étrangers. Et je parle bien évidemment des pays en développement parce que de toute manière, quand tu vas investir à l'étranger, tu vas rarement l'investir en Angleterre ou aux États-Unis ou en Allemagne. Tu vas plutôt l'investir dans des pays qui vont être en voie de développement parce que c'est là que le potentiel est justement le plus intéressant. Donc dans mon cas, dans un cadre de diversification, je me suis penché sur un pays avec un fort potentiel de développement, avec à mon sens une sécurité dans ce développement-là. Donc c'est Bali, hein, cette destination dont je parle, puisque j'ai estimé que ce marché-là était déjà relativement développé d'un point de vue touristique. Je pensais, et j'ai eu raison du coup, que ce marché allait exploser dans les années à venir parce que bah, Bali est une destination aujourd'hui, c'est la destination numéro 1 je crois dans le monde, la plus connue, la plus prisée en tout cas. Donc c'est devenu vraiment une destination extrêmement touristique et extrêmement demandée. Donc j'ai misé entre guillemets là-dessus et ça remplissait également d'autres critères sur les prix de l'immobilier actuel qui étaient relativement faibles quand j'ai commencé mon projet, qui sont beaucoup plus élevé aujourd'hui, hein. Littéralement, je pense que les prix ont fait x2 ou x3 en l'espace de 3 ans. Donc c'est absolument énorme. Est-ce que je réachèterai aujourd'hui? Pas forcément. Donc c'est pas forcément une recommandation d'aller sur Bali, hein, même pas du tout. Moi de mon côté, je l'ai fait à une période donnée. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça reste un bon moment pour le faire. En tout cas, je l'ai fait, je ne regrette pas, mais je l'ai fait parce que je voyais un potentiel de croissance élevé. Je voyais une sécurité, en tout cas dans mon analyse, hein, j'ai pris un risque bien sûr. Je voyais une sécurité dans cette croissance-là qui me semblait stable, qui me semblait tenable sur le long terme, et donc j'ai décidé d'avancer. Autre chose, maintenant on va parler des éléments cachés et des pièges que j'ai analysé bien sûr pour ce pays-là, et bien évidemment il y a du risque, hein. Quand on investit et quand on met de l'argent dans un pays qui est en voie de développement, on s'expose à différents risques que je vais te citer dans ce podcast. Le premier risque, c'est la sécurité globale. Quand je parle de sécurité, je parle pas de sécurité physique, je parle de sécurité de tes capitaux, je parle de sécurité du droit de propriété, je parle de sécurité d'un point de vue également légal et d'un point de vue contractuel. Bref, je parle globalement des infrastructures. Les infrastructures légales d'un pays, ça consiste à, on va dire, réguler les acteurs d'un marché donné. En France, par exemple, c'est un marché qui est globalement plutôt bien régulé dans le sens où tu es relativement sûr d'avoir la propriété, enfin tu es relativement sûr, tu es vraiment sûr de la propriété des choses. Si tu es propriétaire d'un bien, il y a peu de chances que le gouvernement demain vienne te le récupérer, même si tu as certaines personnes qui vont te faire croire que dans quelques années la France va récupérer les biens de ses habitants. Je te le dis, à mon avis, c'est pas le cas. Mais bref, en tout cas, certaines personnes pensent que c'est le cas, tant mieux pour eux. En tout cas, moi je ne le pense absolument pas. Dans d'autres pays du monde, on est loin d'être sur ce niveau-là de sécurité. Dans des pays en voie de développement, alors je ne dis pas que le gouvernement va saisir tes biens, c'est pas ça, mais en tout cas, tu as énormément de risques d'un point de vue légal et d'un point de vue droit de propriété. Je vais donner des exemples communs, hein. Quand j'ai vécu à Bali pendant 9 mois en 2021, au moment où j'ai lancé ce projet-là de maison, quand je vivais à Bali, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont raconté comment des Français se sont fait arnaquer de centaines de milliers d'euros en achetant un terrain qui n'était pas au propriétaire. C'est-à-dire qu'un propriétaire vient te voir et te dit « Écoute, tu vas acheter mon terrain, il est à 200 000 euros, très bien. Toi, tu as l'argent, tu vas signer chez le notaire. » Et une fois que tu as donné l'argent, tu te rends compte que le terrain n'est pas à toi puisqu'il n'était même pas au propriétaire précédent. Arnaque extrêmement connue dans plein de pays en développement, je ne crache pas du tout sur l'Indonésie qui est un super pays, mais dans énormément de pays en développement, ce sont des arnaques qui sont fréquentes. Et je ne te parle que de celle-là, je ne te parle pas des constructeurs qui disparaissent du jour au lendemain avec ton argent, je ne te parle pas de toutes ces arnaques-là qui peuvent arriver très rapidement dans ce type de pays. Donc méfiance là-dessus, la sécurité c'est l'un des sujets, c'est l'un des risques à prendre en compte et qui est bien souvent caché et dont on ne mesure pas vraiment l'impact avant de commencer un projet. Donc la sécurité c'est extrêmement important. L'aspect légal également, donc l'infrastructure légale, est-ce que tu peux être propriétaire d'un terrain. Par exemple, en Indonésie, on ne peut pas être propriétaire d'un terrain en tant qu'étranger. Donc tu passes par ce qu'on appelle un leasehold, qui est une location longue durée. Pour nous, c'est une location de 30 ans avec 20 ans déjà renouvelable. Donc on a au total 50 ans et on peut étendre jusqu'à 99 ans. Donc voilà, c'est la loi qui est comme ça. On en avait conscience, il n'y a pas de problème, mais c'est évidemment un des éléments à prendre en compte. Dans certains cas, tu peux faire ce qu'on appelle des leaseholds, dans d'autres cas, tu n'as peut-être pas envie de le faire, et auquel cas, c'est pas forcément intéressant pour toi d'aller sur ce type de projet. Donc, très important de se renseigner sur l'aspect légal et des spécificités locales. Dans certains cas, il faudra que tu crées une société. Dans certains cas, il faudra que tu crées une société avec un local. Par exemple, si tu investis en Thaïlande, par exemple, et que tu dois créer une société, tu ne peux pas être à 100% dans une société avec des capitaux étrangers, c'est-à-dire des capitaux qui sont détenus par des personnes non de nationalité différente pardon, de celle du pays. En Indonésie, c'est pas le cas. Hein. En Indonésie, tu peux créer une société à capitaux étrangers, c'est notre cas. En Thaïlande, ce n'est juste pas possible. Hein. Si tu veux créer une société, il faut que tu sois associé avec un Thaïlandais qui a la majorité des parts. Et ça, c'est quand même un point qui est extrêmement compliqué parce que ça va venir complexifier l'ensemble du business et l'ensemble, on va dire, du processus immobilier. Si tu veux faire de l'achat-revente, par exemple, c'est pas extrêmement sécurisant de savoir que tu as un associé que tu ne connais pas forcément ou qui est imposé en tout cas par la loi. Donc ça c'est un point qui est absolument essentiel. Donc je rappelle l'aspect sécurité, l'aspect légal, et maintenant on passe à l'aspect financier. L'aspect financier ça va être tout ce qui va être lié aux banques, au financement. Le gros avantage de la France, et c'est ce qui m'a permis de mon côté d'acheter une trentaine d'appartements en France en ayant mis extrêmement peu d'apports financiers, en ayant pour la plupart de mes biens, la plupart de mes immeubles, je les ai achetés sans apport, hein, c'était bien que j'ai acheté en faisant financer l'intégralité par la banque, et bien c'est justement grâce à cet effet de levier, à la capacité des banques françaises et européennes à financer des biens immobiliers. Et ça vient pas de nulle part, ça vient du fait que l'immobilier est globalement très sécurisé en Europe, ce qui permet aux banques de prendre des risques entre guillemets dessus, ce qui n'est pas le cas des banques dans des pays émergents, comme je l'ai dit, où il y a beaucoup plus de risques et beaucoup moins de sécurité d'un point de vue légal. Donc ce qui permet du coup, enfin le désavantage entre guillemets des pays comme la France, c'est évidemment leur stabilité, mais c'est aussi leur plus grand avantage parce que ça permet de faire des financements sur des biens immobiliers, ce qui est totalement impossible dans la plupart des pays du monde qui sont en voie de développement. Je prends l'exemple de Bali, impossible à Bali de faire un prêt pour acheter une villa. Ce n'est pas possible, il faut financer absolument en fonds propres, donc avec ton argent cash. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant et c'est nécessaire d'avoir du coup, et bien sur ton compte en banque, la somme nécessaire pour pouvoir acheter un projet ou faire tes achats-reventes. Donc, ça implique aucune intervention de la banque. Alors évidemment, il y a d'autres pays où c'est possible. Hein. Si tu vas par exemple en Europe de l'Est, tu verras dans la vidéo, je prendrai l'exemple de Prague. Prague, c'est une ville qui est en République tchèque, la capitale, et tu peux bien évidemment acheter des biens immobiliers à crédit, ça demandera juste un apport très élevé et des taux d'intérêt qui sont également extrêmement élevés, à l'inverse de la France où l'apport peut être tout petit et les taux sont également beaucoup plus faibles. Donc très important de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant dans les pays développés, les pays européens, c'est la capacité à faire du financement, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays à fort potentiel de développement. Donc ça c'est un point qui est vraiment à prendre en compte. Si aujourd'hui tu n'as pas le cash nécessaire pour acheter des biens immobiliers en fonds propres, oublie le fait d'acheter dans des pays émergents avec un fort potentiel. Dans ce cas, tu devras te tourner vers des pays plus développés, des pays qui ont un système bancaire bien développé, bien en place, et auquel cas, entre investir, je sais pas, en Allemagne ou en France, je vois pas trop l'intérêt d'aller investir en Allemagne ou d'aller faire des projets en Allemagne, alors que on est sur des marchés qui sont finalement assez similaires, sauf que, et là on en vient au dernier point, enfin l'avant-dernier point plutôt, tu vas avoir une maîtrise de l'aspect culturel et linguistique. Ça c'est le point essentiel de ce podcast, c'est qu'au final, aller à l'étranger, c'est également un risque supplémentaire d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue, on va dire, contexte global. Quand tu es en France, on ne se rend pas compte à quel point on est ancré dans une culture, on comprend le fonctionnement des choses, on peut comprendre les interactions entre les personnes et on est au fait d'absolument tout. Quand on va à l'étranger, on se rend compte encore plus du fait que tout est différent. Quand j'ai acheté à Bali, c'était quand même beaucoup de prise de tête parce que j'ai compris, enfin, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre absolument tout sur leur manière de fonctionner, sur les contrats qui étaient faits, sur leurs méthodologies qui sont très différentes de la France. Bref, j'ai dû me refaire réapprendre de zéro quasiment. Quand on est en France, c'est beaucoup plus confortable. On sait comment ça fonctionne, on parle la langue, on peut parler avec son notaire absolument... de manière extrêmement simple. Quand tu vas dans un pays anglophone par exemple, ou encore pire, un pays qui n'est même pas anglophone, tu vas devoir t'adapter, parler en anglais, exprimer tes questions dans une langue qui n'est pas la tienne, avoir peut-être un manque de subtilité ou un manque de compréhension. Personnellement, j'ai dû signer par exemple des contrats en indonésien, qui est une langue que évidemment je ne lis pas, donc j'ai dû faire traduire les documents, etc., etc. Bref, c'est des complexités et des risques supplémentaires, et sans parler de cet aspect linguistique, l'aspect risque est évidemment accru quand tu ne maîtrises pas 100% les coutumes, les méthodes et les manières de faire du pays dans lequel tu vas te lancer. Donc extrêmement important de prendre en compte également l'aspect linguistique et l'aspect, on va dire, contextuel, global du pays. Dernier point, le point fiscal. Alors on parle beaucoup de fiscalité en France, l'immobilier en France reste un endroit propice aux niches fiscales, on le sait, il y a énormément d'avantages en immobilier en France sur le point, d'un point de vue fiscal. Néanmoins, il y a plein de pays également qui en ont, qui ont des avantages ou qui ont des exonérations dans certains cas sur les revenus immobiliers. C'est des points également qu'il faut prendre en compte, c'est des éléments, j'ai pas des éléments cachés, mais des éléments qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un projet immobilier à l'étranger. Et je l'ai vu en étudiant du coup les différents pays que j'ai fait pendant ces dernières semaines, hein, quand je parle de l'Albanie, du Kosovo, c'est des pays qui ont des réglementations très spécifiques, qui sont parfois pas très carrées, qui sont parfois pas vraiment définies non plus, et qui sont parfois assez floues, et donc ça implique parfois de nager un peu en eau trouble, et c'est jamais très agréable quand on est comme toi et moi je pense français, et qu'on a l'habitude d'avoir un cadre qui est assez carré, assez simple, simple, tout est relatif bien sûr, mais en tout cas assez connu, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Il y a plein de pays où on m'a dit, ou quand je me suis renseigné, quand j'ai fait des recherches, quand j'ai rencontré des personnes sur place, on m'a clairement dit, bah non, pour ça, j'ai pas d'infos. Hein. C'est pour la fiscalité, je sais pas trop. Si tu es français, je sais pas comment c'est fiscalisé, je sais pas si tu payes des impôts ou pas, je sais pas combien c'est. Bref, j'arrive avec un élément qui est quand même assez flou, un gros point d'interrogation sur ma fiche, où je ne sais même pas comment et combien je vais être fiscalisé. D'autant plus que je te rappelle que quand tu vas aller acheter un bien dans un pays, que ce soit pour l'achat-revente encore une fois, ou pour du locatif, tu vas devoir t'habituer à ce pays-là, comprendre le fonctionnement, et tu vas devoir tout recréer de zéro. C'est-à-dire que si tu vas devoir créer une structure, tu vas devoir avoir peut-être un comptable, peut-être une personne sur place pour te référer d'un point de vue fiscal, c'est énormément de complexité, et je ne le ferai pas personnellement pour un petit projet. Si je fais ce travail-là, c'est pour un projet important, ou alors dans un but de m'implanter et de faire plusieurs projets de suite dans le même pays ou dans la même zone. Je ne vais pas aller m'amuser à acheter 10 biens différents dans 10 pays différents et à chaque fois devoir apprendre la fiscalité, devoir comprendre les règles, comment je dois déclarer mes revenus, comment je dois signer les contrats, etc., etc., comment je peux payer mes charges, etc. C'est extrêmement complexe, donc ça c'est aussi une complexité supplémentaire, et parfois je trouve qu'on a beaucoup tendance à vouloir se compliquer la vie, à se dire ok, comment je peux faire pour aller investir en tel pays, pour gagner un peu de rentabilité par rapport à la France, oui mais à quel prix ? Au prix de la simplicité, au prix de la sécurité, au prix d'une fiscalité différente, au prix eh bien, d'une impossibilité de financement dans certains cas, au prix également d'un manque de sécurité. Bref, dans la très 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 large majorité des cas, à mon sens, ce n'est absolument pas intéressant de s'intéresser à investir à l'étranger quand on a un patrimoine normal. Hein. Je ne parle pas d'une personne qui a un patrimoine de millions, voire de dizaines de millions d'euros. Dans ce cas-là, évidemment, il y a des intérêts, il y a des leviers qui sont beaucoup plus importants. Mais pour une personne normale, j'ai envie de dire... faire son immobilier en France, faire ses projets en France, ça reste le plus simple, le plus efficace, et c'est là où tu vas avoir le plus grand levier, et c'est là où tu peux justement générer le plus au final. Parce que quand tu maîtrises ton environnement, t'es beaucoup plus en confiance, t'es beaucoup plus à l'aise pour avancer, et t'es beaucoup plus à l'aise pour pouvoir développer ton activité, alors que quand tu repars de zéro dans un pays où t'as pas forcément tous les codes, c'est assez compliqué, ça prend du temps, et au final tu perds en simplicité, tu perds en efficacité, et tu prends des risques finalement que tu n'aurais pas pris en restant dans ton pays d'origine. Voilà pour mon point de vue sur l'immobilier à l'étranger, ça reste évidemment intéressant, ça reste évidemment mon point de vue. Je pense que c'est une très bonne diversification, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui sont déjà avancées, donc qui ont un niveau où ils ont déjà plusieurs dizaines d'appartements, ou alors des personnes qui ont déjà fait plusieurs, on va dire entre 5 et 10 opérations de marchand de biens en France. Pour le reste, je pense que c'est un risque un petit peu trop élevé et qui n'est vraiment pas intéressant, même d'un point de vue purement financier, quand on voit les leviers et tout ce qu'on peut faire en France d'un point de vue immobilier. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites toi aussi apprendre à faire de l'immobilier en France, comme je le fais, tu as en premier lien de ce podcast une présentation d'une trentaine de minutes où je te montre toute la stratégie de A à Z pour faire à la fois de l'achat-revente et de l'immeuble de rapport qui génère jusqu'à un salaire par projet. va voir cette vidéo, tu comprendras justement les stratégies qui sont mises en place en France et qui te permettent d'éviter justement de devoir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs dans d'autres pays pour des rendements qui peuvent parfois être alléchants, mais au prix des différents risques que je t'ai évoqués dans ce podcast. Donc je vais t'aller voir la vidéo et fais-toi ton propre avis sur les différents éléments pour toi aussi prendre la bonne décision et ne pas te laisser, on va dire, appeler par les sirènes des projets à l'étranger qui comportent, comme je l'ai dit, des risques. Je te laisse sur ce podcast et on se retrouve dans le prochain et dans la vidéo juste en dessous du podcast. À très bientôt.